On accélère.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, c'est J'y suis. Une heure d'opéra, Orphée, Eurydice, j'ai perdu mon Eurydice.
Alors, je vais juste faire des petits passages des violons, et puis ensuite je joue la basse pendant que tu chantes.
Cette oisille aimable et tranquille par le bonheur est arrêtée. C'est le rayon en séjour de la félicité. Nul objet ici n'enflamme l'âme. Une douce ivresse laisse un calme heureux dans tous les sens. Sombre tristesse cesse dans ces lieux innocents.
Ok, on va déjà prendre ça. C'est pas mal du tout. Ça manque un petit peu de direction de ta phrase et du coup tu manques de souffle sur la fin.
Ah, je sens que je suis un peu. Cette asile aimable et tranquille par le bonheur est arrêtée.
C'était mieux. Les trois premières notes, tu vides un peu trop ton air.
Ouais, je le sens tout à fait.
Pense vraiment à un mouvement qui part d'en bas et qui se prolonge le long de ta colonne. Que ce soit pas quelque chose qui se ferme, mais quelque chose qui s'étire le long de ta colonne. Pose-toi bien dans ton bassin.
Et la sombre tristesse cesse dans ses lieux innocents.
Il faut que tu gardes cette sensation du bassin qui est vraiment posé et
stable.
Voilà, d'être vraiment ancré dans le sol. Ça a sonné ?
Ouais.
Ah, c'est Stéphane.
C'est à Uzest. C'est à Uzest que j'ai rencontré Anaëlle Bensoussan. Chanteuse lyrique, bel canto, chef de chœur. Bon, pour moi, c'est un autre monde. C'est la musique classique. Musique classique, musique de classe. Même si les adeptes de la musique classique s'en défendent, la musique classique appartient bel et bien au symbole des milieux dominants en termes d'image et de distinction. J'écoute ça, je ne suis pas un con. Et pour rompre cette confiscation, les vulgarisateurs, les démocratisateurs de la grande et belle musique classique nous font croire qu'il suffirait de s'abandonner au pouvoir miraculeux du spectacle pour que s'ouvre l'âme et le cœur du bon peuple. Eh ben, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Écouter s'apprend. Ça s'apprend peu à peu. On va de plaisir en plaisir. Il y faut de la méthode, parfois un peu d'entêtement. Et puis, peu à peu, les fenêtres et les horizons s'ouvrent et s'ouvrent les esprits vers l'émancipation générale. Il en va de même pour les autres arts, pour la peinture par exemple. 12 millions de personnes passent au Louvre chaque année. Je suis sûr que 12 millions de ces personnes n'y comprennent à peu près rien parce que l'art, ça s'apprend de plaisir en plaisir. Alors, Allons-y, décolonisons la musique classique et réapproprions-nous l'opéra. Mais comment faire? Eh bien, on a eu l'idée de passer par le travail du chant, par le corps des chanteurs, par cette longue discipline des répétitions, en fait, tout simplement, par l'art, en l'occurrence, l'art du chant. Et on va aller, dans cette heure, du cours de chant au spectacle final. On va suivre les choristes amateurs de l'ensemble Orfea. 1,5 million de Français sont dans des chœurs amateurs, comme ça et aime ça. Il y a beaucoup de Français qui pratiquent, en vérité, ces musiques. Et puis, on assistera aussi aux répétitions avec les solistes, alors professionnels, de cette qui vont se produire dans cet opéra Orphée et Eurydice que vous connaissez. J'ai perdu mon Eurydice, l'opéra de Gluck revu par Berlioz, etc. Notre idée, c'est que en suivant ce long travail modeste et physique, loin des divas et des commentaires savants ou demi-savants, on va tenter d'accéder à ce langage, celui en l'occurrence du bel canto et de l'opéra, par le corps des gens, par le corps des artistes, par le corps des chanteurs, parce que c'est ce que nous avons en commun avec eux. Et c'est le plus simple appareil que cet appareil-là, que cet instrument-là. C'est le corps, tout simplement, pas d'ampli, pas de micro, pas de numérique, rien du tout, simplement quelqu'un qui est là et qui chante et qui a un corps comme le vôtre et comme le mien. Une façon d'entrer dans cet art et peut-être bien, assez vite, d'en mesurer par la même la portée universelle et en voir la capacité de partage et de le rendre à ceux à qui il appartient vraiment, c'est-à-dire à tous et au génie universel. Orphée, Eurydice, jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis, démocratisation des plaisirs rares.
Stéphane. Bonjour, Daniel.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Stéphane, tu veux faire les chœurs, Stéphane?
Pourquoi pas?
Vas-y, on les fait ensemble.
Ok.
Alors Stéphane, toi t'es amateur aussi, t'es professionnel?
Plus qu'amateur.
Débutant?
Débutant, oui.
C'est vrai? Bon, t'as pas l'air débutant là. Hein.
J'ai commencé avec Anaël il y a à peu près 2 ans. C'est une thérapie pour moi, le chant. ça apporte de la relaxation, avant tout, parce que moi, je suis tout le temps très tendu. Le premier travail qu'Anaël doit faire, c'est me décontracter, me ramollir. M'attendrir pour qu'on puisse enfin travailler en fait. Donc,
qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis menuisier. Et puis voilà, donc j'ai commencé un jour, ça m'a pris. On m'a guidé vers un Noël.
Il t'a initié à la menuiserie.
Non, mais par contre, je l'ai embauché pour faire les décors parce qu'en fait, il fait quand même des super décors pour tous les plus grands théâtres.
Donc t'es constructeur de décors. Donc ça fait des années que tu entends des gens chanter.
J'en ai entendu, oui, en travaillant à l'Opéra Bastille, j'allais aux portes entrouvertes, écouter les répétitions, les échauffements. Je trouvais ça très beau.
Et maintenant, c'est ton tour.
Et voilà, et je comprends ce que c'est qu'un échauffement, en fait, et tout le travail que ça comporte.
C'est bien.
c'est comme d'hab un peu trop tonique. Voilà. Donc essaye de trouver quelque chose de plus souple dans les abdos. Je mets juste ma main dans ton dos. Je veux sentir ton dos qui s'ouvre à l'inspire. Ouais, là tes aigus ils sont un petit peu en force. Est-ce qu'on peut essayer sans rentrer le ventre au moment du aigu pour voir ce que ça fait? Si c'est moche, on s'en fout, d'accord? Ça c'était vachement bien, on garde ça. T'as vu, quand tu rentres pas le ventre, c'est hyper beau, ça donne une souplesse au son. Voilà, garde, reste grand.
Oui.
Voilà, l'étirement, c'est pas que en montant, c'est en montant et ça continue pendant que tu descends. Ouais. Donc Stéphane est baryton basse. On sait pas trop,
plus basse,
baryton, basse, basse.
C'est bien ce conseil, on n'est pas obligé de rentrer son ventre. Hein. Il faut au contraire sortir le ventre en avant, c'est ça?
C'est pas forcément sortir le ventre en avant, mais le problème c'est que si on rentre le ventre en faisant un à-coup, on chasse l'air d'un coup. Et nous, notre but quand on chante, c'est de pouvoir avoir un très long souffle et très progressif. Le larynx, il a besoin qu'on lui envoie un flux d'air régulier.
C'est-à-dire que le corps est un instrument, c'est le moins coûteux des instruments, finalement.
C'est vrai, et c'est aussi le plus fragile parce qu'on ne peut pas en racheter un quand il s'est cassé.
Voilà.
Tu veux faire quel cœur?
Des furies, c'est un peu violent pour commencer. Parce que dans Orphée, les cœurs sont très très caractérisés, donc... Il y a les chœurs des furies qui représentent les cerbères à l'entrée des enfers et qui essayent de faire peur à Orphée, qui sont des chœurs très très violents. Il y a les chœurs au moment de l'ombre heureuse qui sont dans le passage très calme des enfers, qui sont très doux. Il y a les chœurs qui pleurent au début de la mort d'Eurydice. Alors, tu veux pleurer, tu veux crier, tu veux... Par quel puissant accord, d'accord. Donc ça, c'est les cerbères au moment où ils commencent à être adoucis par le chant d'Orphée. Et il commence à avoir envie de le laisser entrer dans les enfers. Parce qu'Orphée va venir chercher Eurydice dans les enfers. Pareils à ceux que je ressens, pareils à ceux que je ressens.
Par quel puissant accord dans le
directement. Il calme la fureur. Juste ça.
Il calme la fureur.
Ouais, la même chose par cœur. Je veux juste qu'il calme la fureur. Fais-le par cœur et pense juste au fil qui se déroule en face de toi.
Il calme la fureur de nos transports.
Ça va?
Oui, ça va, c'est sport. Hein.
C'est sport parce que c'est à la fois la détente et la tonicité. S'il manque un peu de tonicité, on chante faux, c'est mou. Si c'est trop tonique, ça fait des sons qui sont un peu durs et du coup on peut se faire mal et puis c'est moins beau. Il faut réussir à trouver les muscles intérieurs qui bossent énormément et les muscles extérieurs qui sont très détendus. C'est assez sportif et c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler très souvent.
Ouais.
Ok, un petit coup de furie.
Un petit coup de furie.
Pour le plaisir. Donc là, il y a Orphée qui arrive avec sa harpe, enfin, sa lyre, qui chante un chant tout doux, et puis les furies, ils sont pas trop de cet avis. Je vais jouer que le basse, parce que là, ça va trop vite pour moi.
Quelle est l'audacieuse qui dansait les sombres lieux.
Tu peux me dire une fois ? Quel est l'audacieux ? Donc vraiment, tu chuchotes. Beaucoup plus de consonnes.
Quel est l'audacieux ?
Je veux que les Q et les D, ils claquent.
Quel est l'audacieux ?
D'acieux.
D'acieux.
Le S, il peut être plus long.
Quel est l'audacieux ?
Quel est l'audacieux ? Les mêmes consonnes.
Quel est l'audacieux qui dans ces sombres lieux ?
Oui. Et là, t'as relâché rapidement dans ton souffle. Oui, t'as senti ? Du coup, ça repart et ça se bloque pas.
Si on a la bonne mécanique, ça marche.
S'il n'y a pas un
Alors ça, c'était la première étape, le cours chez Anaël Bensoussan. Maintenant, deuxième étape, la répétition des chœurs. C'est dans une salle à Paris, près de l'église Saint-Roch. Tous les choristes sont là, cette fois-ci, et vont donc répéter Orphée, Eurydice, le fameux opéra de Gluck, revu par Berlioz. J'essaye de vous rappeler très très rapidement l'histoire d'Orphée pour que vous compreniez un petit peu ce que vous entendez. L'histoire d'Orphée, vous la connaissez. Orphée était ce musicien magnifique, si formidable avec sa lyre que même les animaux féroces se couchaient en souriant à ses pieds. Et alors pour les femmes, elles étaient toutes folles de lui. Mais lui n'était fou que d'Eurydice, qu'il finit par épouser. Ils sont heureux. Mais malchance, Eurydice meurt, elle a été blessée par un serpent et elle se retrouve au fond des ténèbres, au fond des enfers. Orphée, fou de malheur, se précipite vers les enfers pour retrouver son Eurydice. À l'entrée des enfers, évidemment, les Cerbères lui en empêchent l'entrée. Il essaiera de négocier avec eux et c'est impossible, malgré qu'il joue si bien de la lyre. Et magie, l'amour intervient. L'amour lui dit, écoute, je te propose ceci, je vais ressusciter Eurydice, elle sortira des enfers avec toi à une condition. À une condition, c'est que tu ne te retournes pas pour la regarder jusqu'à ce que vous soyez sortis de ces lieux maudits. Orphée promet, mais bien sûr, vous connaissez, il n'y arrivera pas à la dernière seconde, millième de seconde. Il se retournera pour trouver le regard de sa bien-aimée. Au moment où il la regardera, elle mourra et Orphée errera à tout jamais. Il y a cette fin-là, et puis il y a la fin de la version de Gluck où l'amour intervient à nouveau, réconcilie. Les ressuscite Eurydice et ça ira vers une fin heureuse. C'est un texte du XVIIe siècle écrit dans un français délicieux. Donc là on est, c'est la répétition des chœurs vers cette représentation qui a eu lieu à la Maison de la Musique de Nanterre. Là on en est à la répétition des chœurs, je le répète.
Vous savez quoi, je vais le noter aussi.
Ouais.
Alors...
On va sur l'oreille.
Non mais ça c'est vraiment pas la peine d'enregistrer une tergiversation de... La chef sait pas ce qu'il doit dire. C'est la petite cuisine interne.
Ce qui est marrant, c'est toute la discussion et les préparations.
C'est bon ? Vous avez besoin de la chanter une fois ? Ok. Donc là en fait on va... Regardez une fois la voix de ténor en entier pour être sûr qu'on chante tous la même chose parce qu'on avait tous des partitions différentes.
Mais dis donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, les ténors sont où ?
Alors, levez la main les ténors.
1, 2, 3, 4 ténors.
Donc, en fait, on a 4 basses ici.
4 basses.
Qui sont les voix les plus graves du cœur.
Okay.
Ensuite, on a 4 ténors qui sont les voix les plus aiguës des hommes. Si on continue à monter vers l'aigu, on arrive vers les voix graves des femmes qui sont les voix d'alto.
Alto.
Voilà. Et ensuite, on a les voix de soprano qui sont les voix les plus aiguës des femmes et du cœur. Donc.
Donc, au là, total, ça fait vous êtes une vingtaine.
Il y a 4 voix.
Ok.
Alors, les ténors.
Thank you.
ouvrir les fenêtres en grand, on se fait une petite pause.
Ça va Stéphane?
Non, super, c'est bien.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est toujours agréable de venir ici. On n'avait pas travaillé depuis un certain moment. C'est une des premières répètes qu'on fait de l'année, là.
Ah
oui.
Ouais. Ah oui, si, il faut
que tu restes. Odile.
Comment vous vous appelez?
Odile.
Odile. Mais comment vous avez commencé, vous?
À chanter.
Comment j'ai commencé à chanter? J'ai fait de la musique quand j'étais gamine. J'ai eu des enfants, je me suis mariée, tout ça. J'avais plus le temps de faire la musique. Et donc, je me suis dit un jour, je vais faire de la chorale. Comme ça, si je n'ai pas le temps de travailler, ce n'est pas grave. Il y aura le groupe, ce n'est pas la peine. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est comme ça que j'ai repris. Et il y a quoi? Il y a 7-8 ans. Et puis, je me suis prise au jeu, en plus.
Alors, ça veut dire quand même que vous travaillez chez vous.
Oui.
Vous êtes, c'est pas que là.
Un petit peu, oui.
Vous êtes obligé de
travailler. Oui, oui, ça dépend.
Quand on chante dans plusieurs
chorales. Si c'est vraiment des grands chœurs. Moi, j'ai pas besoin.
C'est des travaux, c'est ça le secret.
Et est-ce que vous sentez le choriste, il est moins que le soliste? Vous êtes l'écrin du soliste, c'est la vedette. Parce que vous êtes modeste, il y a une sorte de modestie de discipline chez les choristes, dans le chœur.
C'est super d'être au sein du chœur. Quand on sort du chœur, on se sent tout nu. Enfin, moi, j'aime pas trop ça, en fait. C'est sympa de chanter un air, voilà, mais j'aime pas trop ça. Enfin, j'ai pas l'habitude non plus. Je sais pas si ça vient avec l'habitude, mais on est beaucoup plus en scène, quoi. Dans le cœur, on se sent bien.
Mais qui se rend compte de votre travail? Là, vous allez jouer dans le public. Qui se rend compte de tout ce travail, syllabe par syllabe, pousser la voix, regarde, etc.
Les musiciens et les mélomanes, ils se rendent compte.
Ouais. C'est comme un château de cartes. Si la base n'est pas solide, tout s'effondre.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, les uns et les autres, pour avoir une idée un peu?
Je viens de finir mon activité professionnelle il y a 5 jours. Professeur de psycho dans une école de travail social. Voilà.
Moi, je suis pharmacienne.
Toujours en activité?
Toujours en activité. Moi, j'étais informaticienne, mais plus du tout en activité depuis 10 ans déjà.
Professeur.
De
maths.
Ah ouais, de maths. Bon, on aurait pu penser musique.
Là, ça fait 2 jours qu'on bosse non-stop et je sais pas où vous en êtes au niveau de votre énergie. Si vous sentez de bosser jusqu'à 17h encore à plein pot, est-ce que...
Un
petit filage, ça vous ferait du bien. Avant le filage, il y a 2 chœurs qu'on a laissé un peu passer, que je voudrais qu'on reprenne un peu. C'est difficile ces chœurs parce que c'est que des tout petits bouts et entre chaque, il y a à chaque fois des solos. Il faut vraiment... Dès que vous commencez, que vous soyez là à 100%. Et à chaque fois, je vous ai à 50% la première phrase, 70% la deuxième. Sauf que le problème, c'est que si vous n'êtes pas là à la première mesure, le public, il a déjà décroché. Donc, il n'écoute pas la troisième mesure quand vous êtes revenu, en fait. On fait la fin. Fléchir, je vous fais la fin d'Orphée. Fléchir en vous. Charmer, j'ai pas assez de désarmer et de charmer. C'est les derniers mots doux que vous dites après qui descend aux enfants. Donc, faut que ce soit presque sensuel. Nous désarmer et nous charmer. Si tu veux. Quel chant doux et touchant, V, page 69, en haut. Donc, on essaie de le faire au vrai tempo, mais pas un vrai tempo mou. Outre rigueur.
Qui descend au
puis voilà, le grand jour, quatrième épisode, la représentation. La représentation, c'était le 11 octobre dernier, à la Maison de la Musique de Nanterre, donc avec l'ensemble vocal Orfea, que vous venez d'entendre lors d'une répétition. Et là, c'est le grand moment, ils sont tous là, tous vêtus de noir. Mais auparavant, il y a cette répétition des chœurs avec les solistes.
Dans les altos, il y a Valérie. Tu vois que les autres sont là. Essayez au maximum d'être en arc de cercle et on va réessayer, on va voir ce que ça donne. Que vous vous disiez ouh là 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 là, je suis tout seul, j'ose pas y aller et j'attends que les voisins démarrent. Là, il faut vraiment que vous soyez en mode soliste. Je connais ma partie, je chante et j'attends pas que les autres démarrent. OK ?
Allez, c'est parti. Acte 2.
Oh, la flamme qui me dévore est sans foi plus cruel. Plus cruel encore, l'enfer n'a point de tourments pareils à ceux que je ressens, pareils à ceux que je ressens.
Never.
qui est merveilleux, c'est que Orphée, c'est une jeune femme qui n'a rien, on peut dire rien de masculin. Et qui n'a pas une voix d'homme non plus. Mais voilà, c'est une convention comme une autre. Ce qui est très rigolo, c'est que, évidemment, ce sera très beau, hein, en costume, etc. Mais là, c'est marrant, parce qu'ils sont en jean, en marinière, en pull, en savate, quoi, quasiment, enfin, en tous les jours. C'est magique.
Pas le bras, qu'on voit ce que ça donne visuellement.
Saskia.
Et pourquoi est-ce qu'il faut rouler les R?
Parce qu'à l'époque, ils le faisaient. À l'époque, on roulait les R.
Mais ça facilite le travail, ça facilite le chant ou pas du tout?
C'est une question d'école. Il y a des gens qui choisissent de les rouler, d'autres pas. Après, moi, j'avoue que je suis un petit peu attachée à la restitution, un petit peu de ce qui se faisait à l'époque.
C'est le Gluck ou c'est le de Berlioz?
De Gluck, plutôt. À l'époque de Berlioz, si je ne dis pas de sottises, on roulait encore les R.
Ouais,
c'est passé avec le français ce qui se passe en ce moment avec l'italien. Où c'est assez apparemment dans l'air du temps d'arrêter de rouler les R en italien, dans la vie de tous les jours.
On a roulé les R en France jusqu'à très peu de temps. Hein.
C'est ouais, ça.
Ouais. On pourra finir après, mais c'est juste qu'on doit libérer la salle dans 10 minutes. Donc, tu nous fais la petite intro d'Eurydice et Orphée.
L'amour triomphe et tout ce que
Donc il y aura Orphée et Eurydice qui chantent le début, mais là, pour aujourd'hui, on n'a que Orphée.
«
Est-ce que ça peut être joyeux sans être poussé? Parce que là, c'est un peu poussif dans les voix. À partir de quelle heure on a la salle jeudi ou pas? Quand on veut. On peut avoir éventuellement une salle pour que les choristes posent leurs affaires et se changent. Ok, donc à 18h ici, et nos coulisses, ce sera en fait la salle où on range les chaises.
Et on vient pas jeudi.
19h45 pour la chauffe et 20h pour la répète. À 19h45, on peut être là.
Alors voilà, vous avez compris, ça c'était en fait l'ultime répétition des chœurs avec les choristes. Et là, enfin, oui, cette fois, c'est la représentation. C'est ce jeudi 11 à la Maison de la Musique de Nanterre. Ils sont là, comme je décrivais auparavant, tous de noir vêtus. Je parle des choristes. Les solistes se préparent dans une autre partie. Et c'est les derniers échauffements. Ce long et lent travail des chanteurs, du corps, des voix, qui, espérons-le, vous permettent de rentrer dans cet art autrement que, comme d'habitude, avec la pompe, les commentaires savants, l'agenouillement devant les divas. Là, au fond, c'est des gens comme vous et moi, qui aiment le chant, qui font du chant, qui le pratiquent. Et il n'y a pas là l'appareil d'intimidation habituel. Et nous espérons que c'est une façon pour tous, pour nous, pour vous, d'entrer dans cet art merveilleux, évidemment, du bel canto.
Non, il faut suivre Eurydice. Elle est là-bas, on la reconnaît. Elle est blanche comme un cadavre, quoi.
Ah non! Oh, dis donc!
Tiens! À ce point-là! On va s'étirer un peu. Excusez-moi d'arriver un peu tard.
On a tout fait.
On a tout fait.
C'est du sérieux là. Il y a eu des consignes de costume strictes. Hein. Noir, oui, c'est ça. Oui.
Noir.
Mais personne n'a dérogé. Hein.
L'intérêt.
Et
il est là-dessus, là. Ouais, bah, c'est bon. Ouais. On va descendre avant le public.
Oui, on a 10
minutes. Ok, on se met juste dans nos pieds. On sent l'appui du sol sous nos talons. Grande inspiration. Et une grande expiration. Ça va, la tête tourne pas trop. Ouais, c'est bien. On va aller s'installer dans la salle. Quelqu'un à l'heure, s'il vous plaît.
48.
C'est parti.
Là, c'est vraiment les derniers moments. Avant le spectacle, tous les choristes y sont, quoi, 25 peut-être, tous habillés en noir, de toutes les tailles et toutes les formes différentes. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des grands, il y a des dames, il y a des messieurs, toutes sortes, des cheveux courts, des cheveux longs, des brottes, mais tous en noir, et c'est très solennel, et c'est très concentré, et on sort de la salle parce qu'on va fermer à clé.
Pardon, j'ai fait une bêtise. Ah, papa.
Je crois qu'on va faire rentrer le public. Donc, vous pouvez vous installer, puisque vous êtes déjà là.
Attention à ton coton là, qui.
Non,
ça y est, hein. C'est l'heure. Hein.
Ah oui, là.
Le public rentre.
Ouais, là, c'est le grand moment. Ouais, t'es content quand même, hein. C'est quand même
un très beau échange entre Saskia et Julia.
Mais oui.
C'est magnifique.
Un japonais.
C'était parfait. Des fois, ça marche au-delà des espérances. En fait.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est très bien. On était en.
Bravo, Saskia. Bravo.
Merci.
Et Guido, ça te va très bien, tu devrais la garder. Hein.
Je suis un beau barbu ou pas ?
Mais oui, t'es un très beau barbu. Très convaincante hein, comme garçon. Hein.
C'est vrai ?
Oui, ça passe très bien. Ça marche très, très bien.
Et finalement, vous avez réussi à croire que je suis un vrai garçon.
Tu sais que...
Mais ouais. Parce que c'était la question d'hier, finalement.
Alors, attends, ça c'est la version de Berlioz où ça s'arrange ?
Non, c'est Gluck, en fait.
C'est toujours la même fin heureuse et la...
C'est le même livret.
Ah, d'accord.
Il n'y a que une ou deux notes qui changent.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas grand-chose de Berlioz.
Parce que dans le mythe, ça s'arrange pas.
Mais dans les opéras baroques, en fait, en général, les cinq dernières minutes, il y a un retournement subi de circonstances qui fait que les gens peuvent aller dîner tranquille après la séance.
Voilà, avant de passer au buffet, ça s'arrange pas.
Oui. Je vais rentrer mes affaires.
Voilà, et ça finit comme ça avec tous les participants, l'ensemble Orfea, tous les choristes et les solistes, Saskia Salambier, Julia Baumier et Anaël Bensoussan, vous avez entendu tout au cours de cette heure qui est chef de chœur. J'ai perdu mon Eurydice, donc un reportage d'Antoine Chao et de votre serviteur, et c'était donc le spectacle donné le 11 octobre dernier à la Maison de la Musique de Nanterre. Merci à tous, merci à la direction de cette maison, on était absolument ravis. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. Ronan Mahé et Julien Dumont étaient à la technique aujourd'hui. C'est Lucie Akoun qui a fait le montage de cette heure musicale. Et l'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Géraud, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis on vient d'apprendre la mort de Philippe Cohen, le journaliste et essayiste Philippe Cohen, qui était un ami de Là-bas si j'y suis, un ami personnel. On adresse à tous et à sa famille notamment, mais à tous ceux qui l'aiment et l'ont aimé, nos saluts fraternels. Philippe était un excellent journaliste, essayiste, un type courageux et donc, dans ce métier, rare.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe rien du tout.
C'est pas vrai, il y a des gens qui rentrent, là, il se passe quelque chose.
C'est normal qu'il y ait des gens qui rentrent, c'est une école.
Ah bah alors je peux venir apprendre des trucs, moi aussi. Il faut pas réserver l'enseignement qu'à une certaine catégorie.
Il faut se présenter déjà.
Très bien, je me présente. Je m'appelle...
Qui et de quoi?
Regardez, c'est marqué sur le micro, France Inter.
Ok, enchanté monsieur, voilà. Le bienvenu.
Merci. Et mon nom c'est Hervé.
Justement, là on a quelqu'un d'important qui arrive.
Ah.
C'est le monsieur qui fait passer les auditions.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bah très bien.
C'est pourquoi, mais je suis en retard mon rendez-vous en plus. Bonjour France Inter, la radio.
J'ai passé une audition.
Ouais tout. Passé une audition pourquoi? C'est vrai, c'est sérieux en plus.
Bah, moi je suis très sérieux.
Ah bah, ça fait très bien,
je peux vous suivre.
Mais je ne sais pas si c'est possible ça. Non,
vous n'avez pas l'autorisation pour rentrer.
C'est pas vrai.
Oui. Il faut avoir une autorisation. Et pour rentrer à l'école, on est tous vigilants. Nous voulons que notre école sera bien protégée.
Si vous le dites.
Nous voulons le prestige pour notre école et bien protégée.
Oui, mais à protéger trop, vous ne laissez pas rentrer le savoir, peut-être.
Non, non, on laisse le savoir au moment lorsqu'on le contrôle. Alors, lorsqu'il est contrôlé, il est bienvenu. Alors, on ne va pas laisser n'importe qui.
Mais alors, vous faites quoi à l'école?
Moi, je suis rien, mais je suis là pour mon école.
Voilà. C'est votre école, le SCP?
Oui.
Bonjour à tous et bienvenue à l'ESCP à Paris, où l'entrée est très surveillée.
Si vous êtes invité, vous êtes le bienvenu.
Mais moi, j'aime bien aller là où je ne suis pas invité.
Ah non, nous, on ne vous fait pas l'accès.
C'est vrai?
Oui.
Parce que vous savez, les journalistes, quand on les invite, alors on leur met des petits fours, et puis après ils reviennent, ils disent « Oh, c'était très bien, il y avait des petits fours ». Non, moi je viens...
Patientez un petit peu.
Pardon?
Vous patientez un petit peu.
D'accord. Moi, je discute avec monsieur.
Vous êtes la presse, la bienvenue, vous voulez qu'on parle de plus? Parce que vous dites beaucoup de choses et que ce n'est pas vrai.
Comment ça, j'ai dit des trucs qui n'étaient pas vrais?
Des fois, la presse, c'est...
Ah oui, la presse. Moi, je ne suis pas la presse, moi, je suis juste un petit journaliste, quoi.
Oui, mais la presse et les journalistes, c'est... Un morceau de sel, ça devient un sucre.
C'est vrai? Un morceau de sel, ça devient un sucre pour un journaliste?
Ouais.
Oh, c'est pour les mauvais journalistes.
Ah non, vous êtes toujours éduqué pour ça.
Vous croyez qu'on est éduqué pour transformer le...
Non, mais vous êtes éduqué pour être des journalistes. Des journalistes qui peuvent dire le plus et le moins.
Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, pour falsifier la vérité?
Bon appétit, les collègues.
Oh, bah, je peux rentrer avec eux, ils ont des
assiettes. Non.
Ah bah bonjour. Qu'est-ce que vous faites là?
On vient célébrer tout ce qu'il y a en dehors du chemin, en dehors des routes toutes tracées. On vient célébrer les rencontres inattendues, les découvertes détonnantes.
Justement, moi, je voulais célébrer ça, mais on ne me laisse pas rentrer.
Pas encore rentrer. Ça, c'est pour... il faut s'apprivoiser. On va rentrer ensemble.
Ah oui, c'est gentil ça.
Moi, je suis Olivier Morel, ouais, je suis un ancien de l'ESCP. Et puis, j'ai appris et désappris depuis.
Je vous ai rencontré avec le mouvement Colibri à une projection d'un film sur Pierre Rabhi.
On s'est rencontrés pour la sortie de Au nom de la Terre. Et en 2012, on s'était rencontrés pour la soirée TEDx Republic Square, voilà. Autour du thème l'impossible et temporaire.
Oui, c'est une bonne école ici ?
Des très bons souvenirs et des très bons copains. Ouais, ouais, ouais. C'est la plus vieille école de commerce du monde. 1819, non. Jean-Baptiste C. Vital Roux, qui forme les économistes du 19e et 20e siècle sur des théories qui marchaient sans doute à l'époque et puis qu'on revisite.
Qui marchent plus aujourd'hui ?
C'est comme toutes les espèces, elles ont besoin de muter. Donc heureusement, les professeurs et les anciens s'y attellent.
On tape notre école ECP, elle va ouvrir les portes pour être la première école du monde.
Oui, mais vous dites ouvrir les portes pour être les premiers du monde, mais moi, vous ne me laissez pas rentrer.
Oui, mais je ne vous laisse pas rentrer pour la sécurité, monsieur.
Pourquoi, j'ai l'air méchant ?
Non, exactement, vous n'êtes pas méchant, bon. Mais quand même, il faut contrôler.
Bonjour, monsieur, je fais partie de l'équipe d'organisation. Enchanté.
Olivier Morel. Enchanté. Je suis un ancien de l'école, et avec le Noise, on organise une soirée ce soir. Il y a quelques journalistes qui devraient venir.
Vous voyez, avec le gardien, il est là.
Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe, Olivier, ici, alors ?
Ce soir, c'est le lancement d'un nouveau livre, « Nos grandes écoles buissonnières ». On est une trentaine d'anciens de grandes écoles à avoir décidé à un moment dans notre carrière d'aller vers le développement durable ou l'innovation sociale. Et on vient partager nos doutes, nos raccourcis et parfois nos détours sur ces voies-là. Et on vient le faire à l'ESCP parce que certains d'entre nous sont diplômés de cette école et puis ça nous paraît important de partager avec des étudiants qui sont en train de construire leur parcours professionnel. Il y a des choses qu'ils vont comprendre et qu'ils vont apprendre dans le cadre, et c'est important aussi qu'ils puissent s'exposer à des expériences en dehors du cadre.
Mais en quoi est-ce que vous vivez aujourd'hui professionnellement est différent de ce qu'on vous a enseigné ici ?
En quoi c'est différent ? Les théories de compétition versus la coopération, les théories de croissance infinie versus une sobriété plus heureuse ou une croissance sélective, les théories de l'accumulation et du bonheur par l'avoir. Versus le partage et puis le bonheur par le développement de l'être.
Ça, c'est des choses maintenant qu'on apprend dans les écoles, le développement de l'être et le partage. C'est plus la compétition. C'est toujours pareil, non ? On apprend toujours la compétition.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve demain.
Pour qui, pourquoi êtes-vous prêt à donner votre vie aujourd'hui ? À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, Radio France vous invite à participer à sa grande enquête. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères ? Quelles sont les causes autour desquelles nous pouvons nous rassembler pour demain ? Pour répondre, pour témoigner, rendez-vous sur espacepublic.radiofrance.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le flash Dominique Delarroy.
Ouf, la France échappe au Portugal en barrage de la Coupe du Monde de football. Le tirage au sort a eu lieu en début d'après-midi. Les Bleus seront opposés à l'Ukraine. Match aller le 15 novembre à Kiev. Retour 4 jours plus tard en France au Stade de France. C'est un avantage de plus pour les Bleus, d'autant que l'Ukraine est la nation la moins bien classée à la FIFA parmi les têtes de série des barrages. Mais rien n'est sûr. En 2009, la France avait dû attendre le but de la main de Thierry Henry contre la modeste Irlande pour arracher sa qualification. Les trois autres affiches sont Portugal-Suède, Grèce-Roumanie et Islande-Croatie. L'Ukraine, ce sera un adversaire difficile, prévient déjà Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, qui annonce qu'il va rencontrer rapidement à Paris Patrice Evra, qui s'en est pris hier au consultant. Il a notamment traité Luis Fernandez, Roland Courbis et Vicente Lizarazu de clochard et de parasite. Le joueur de Manchester United pourrait encore être suspendu. Le fabricant américain de pneus Titan International a fait une offre de reprise partielle pour le site de Goodyear à Amiens-Nord, une offre qui concernerait 333 salariés. C'est ce qu'annonce Arnaud Montebourg. Cette proposition concerne l'activité de pneus agricoles avec un maintien des emplois garantis pendant 4 ans. Le PDG a prévu d'investir une centaine de millions de dollars en tout, selon le ministre du redressement productif. Titan avait déjà fait une offre de reprise il y a un an avant de jeter l'éponge. L'affaire Leonarda, Jean-Marc Ayrault dit stop. Le Premier ministre, qui est en déplacement officiel au Danemark, Danemark demande de revenir à l'essentiel et de mettre fin à toutes les exploitations politiques et politiciennes. Il faut remettre de la sérénité et ça commence par l'exemplarité des dirigeants politiques de toute sensibilité, affirmé Jean-Marc Ayrault à Copenhague. Bientôt la fin du procès de la caisse noire de l'UIMM. Le ministère public a réclamé 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende à l'encontre de Denis Gauthier-Sauvagnac, l'ancien patron de l'UIMM. 8 mois avec sursis contre Dominique de Calan, l'ancien délégué général adjoint. Le procès n'a pas permis d'établir la destination des 16,5 millions d'euros retirés en liquide entre 2000 et 2007 des caisses de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Mido, au studio Charles Trenet, carte blanche à Gaëtan Roussel.
Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader.
Avec ses invités, le prodige de la pop française, Florent Marché.
Vers des rivières, plaisir, j'irai me laver les yeux.
Hall et son électropop. Et Christine and the Queen et sa pop lancinante.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Il est un peu plus de 16h04, le carrefour de l'Odéon. C'est maintenant avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique Delorois, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai la jeune et très grande violoniste Isabelle Faust. Et pour commencer, quelques nouveautés avec par exemple Claude Debussy, La Petite Suite. Ce sont des œuvres françaises proposées par l'Orchestre de Chambre de Paris qui viennent d'être gravées et proposées chez Naïf. Donc le chef, c'est un violoniste fameux, Thomas Stettmeyer. Ben voici tout le charme de Debussy, orchestré par Henri Busser, avec l'assentiment du compositeur, parce qu'au départ c'était une œuvre pour piano à quatre mains, ballet. Le ballet de la petite suite de Claude Debussy, orchestré par Henri Busser, interprété par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Thomas Stettmeyer. Il y a aussi des œuvres de Ravel, le fameux Tzigane, la pavane pour une infante défunte, le tombeau de Couperin et plusieurs pièces de Claude Debussy. C'est publié chez Naïve. Autre nouveauté, un trio français, le trio élégiaque de jeunes lauréats de concours internationaux, mais qui ont fait leur chemin depuis ce temps-là, bien sûr. Ils ont uni leurs forces pour interpréter tous les trios avec piano de Ludwig van Beethoven. Voici, par exemple, le deuxième. Un trio plutôt souriant, plutôt léger, en majeur, avec pas mal d'aisance, quelquefois évidemment des ombres qui passent, sinon ça ne serait pas Beethoven. Je vous propose le final presto du deuxième trio, donc.